Il est 7h30 à Cocoud, la manufacture des rêves est ouverte.
Il est 5h à Moroni, la manufacture des rêves est ouverte.
Il est 10h30 à Lala Fatna, et la manufacture des rêves est ouverte.
Merci ça kumena mwejaza subuhi unu Moroni, la manufacture des rêves est ouverte.
It is 9 o'clock in Panama and the Dream Factory is open.
В Москве 7 часов. Фабрика мечты открыта!
It is 4 in London and the Dream Factory is open.
Il est 10h à New York, la manufacture des rêves est ouverte.
Il est 6h à Douala, la manufacture des rêves est ouverte.
Amin'ny sivy ora zao aty à Manjakandrina, Madagascar. Misokatra ho anao ny valan'ny nofy.
Il est 11h11 dans la vallée d'Esperanza. La manufacture des rêves est ouverte.
Il est 7h dans le Turfu et la manufacture des rêves est ouverte.
Il est l'heure de nous-mêmes sur la lune. La manufacture des rêves est ouverte. La manufacture des rêves, c'est l'ivresse des mots couchés sur une Underwood, les séismes d'une bibliothèque, le voyage littéraire d'Anne et sa traversée poétique. La manufacture des rêves, c'est des voix de femmes, artistes puissantes, uniques et précieuses en conversation généreuse avec Gaëlle. La manufacture des rêves, c'est un bout de chemin avec Birom, le globe croqueur qui marche sur la terre à la rencontre des autres. Une invitation à s'enjailler avec Solo, notre parrain. Murmurer, crier, chanter, danser, penser la vie, briser les murs du son, manifester le sens de son existence, faire acte de beauté et de présence au monde. La manufacture des rêves, c'est nous, c'est vous, ensemble. Dans le ciel des idées du collectif, on a slamé sur la lune. Et tout de suite, l'édito.
Demain est annulé. C'est la fin du monde, ou plutôt la fin d'un monde. L'avenir envolé, la mondialisation arrêtée pour une durée indéterminée, la mondialité peut commencer, peut-être. À Grand Bassam, sur une plage suppliciée, les enfants jouent. Candides innocents comme tous les enfants du monde de gelée, regardent co-vivre, courir ensemble derrière la joie ronde comme un ballon aux couleurs vives. J'ai un sourire dans les yeux fixé sur mes pensées. C'est de la poésie. Toutes et tous au balcon, comme hier à la terrasse de nous-mêmes, c'est de la poésie. Aux armes miraculeuses, citoyennes, citoyens, nous ne nous en sortirons pas sans délicatesse envers nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas sans poésie. Confinés en chacune, en chacun, confisqués parfois par le temps qui manque et toutes ces choses qui nous mentent et nous pressent de vivre, mais est-ce donc vivre ? Sans liesse profonde aux abois et en proie au stress quotidien que nous nous infligeons nous-mêmes librement. À quoi sert la poésie ? Question rituelle, spirituelle même, que je me pose depuis plus de 20 ans, et j'entends toujours ces airs fondamentales me répondre à supporter le monde. Tout est dit. Mais je dirais aussi, pour continuer le professeur et l'espérance en toute humilité, la poésie nous ramène à la rive de nos rêves reportés, à la rime de nos espoirs déportés, à l'arrêt de nos jeux d'égo sans égal, à l'art qui nous lie et nous livre au mystère des étoiles ramassées dans la fange ou sous les pavés de cette plage d'Afrique éternelle. La poésie nous rappelle à nous-mêmes, vulnérables, fragiles, précaires, humains, capables et coupables du meilleur comme du pire. Ces gens, par exemple, aux fenêtres qui chantent, c'est de la poésie. Tous ces élans de solidarité, ces gestes de tendresse salutaire, c'est de la poésie. Toutes ces initiatives créatives qui fleurissent le printemps, créatrices de beauté et d'harmonie, ces partages par milieu de musique, d'images et de mots, d'émotions précieuses, de culture qui relèvent et élèvent, c'est de la poésie. Toutes ces mains sur le cœur à défaut d'être tendues, ces mains à l'ouvrage d'aider, d'aimer, aider, c'est de la poésie. La poésie nous rappelle à nous-mêmes. Nous rêverons, nous créerons, nous crèverons ensemble. La poésie nous rappelle que parfois nous nous inscrivons en faux contre nous-mêmes. Elle nous met face à nos urgences, oublier nos vies, falsifier nos songes, dérouter nos chemins intérieurs perdus dans la frénésie des jours qui passent avec ou sans nous. Elle nous met face à nous-mêmes. Donc, nu et à nu, sans voile, sans phare, ni masque de pluie, elle nous met face aux farces de l'ordre du désordre mondial qui lui-même jouit de nous contraindre à vivre sans quête de sens, face contre terre, nez dans le guidon, à vive allure, droit dans le mur. Demain est annulé. C'est la fin du monde, ou plutôt la fin d'un monde. La poésie nous rappelle, dans les feuillets d'hypnose, c'est la voix de char, substantielle, qu'il faut beaucoup nous aimer, cette fois encore. Respirer plus fort que le poumon du bourreau. La poésie nous rappelle à nous-mêmes, vivants, vibrants, mortels, agissant souvent comme inconscients de notre finitude, moquant les bienveillants, les bienfaisants qui tentent d'habiter le monde élégant, faisant face aux cyniques et aux vulgaires en conflit permanent, en guerre contre le sens, contre le noble, contre la paix, contre la terre, contre toutes, contre tous et contre eux-mêmes aussi assis sur du vent. Les sourires échangés entre le gars et la go là-bas, c'est de la poésie. Tous ces cœurs blottis les uns contre les autres, tout contre, toutes ces personnes qui offrent leur art, font leur part, font de rempart contre la peur, c'est de la poésie. Le frangin croisé près d'Adjamé avec son masque sur le front, clamant haut et fort, virus là peut pas arriver ici, on a piment, y a mon cou et soleil, virus là va même faire comment, tout en me demandant un peu de gel pour les mains, c'est de la poésie. Dans le rire aux éclats qui a suivi sa phrase étincelle d'humour enragé. Demain est annulé. C'est la fin du monde, ou plutôt la fin d'un monde. L'avenir envolé, la mondialisation arrêtée pour une durée indéterminée, la mondialité peut commencer, peut-être. À quoi bon les poètes en temps de détresse, se demandait Hölderlin, et j'entends Hugo, solennel, répondre. Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps pareil au prophète, dans sa main où tout peut tenir, doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Je n'ai jamais eu de distance avec la poésie. C'est un fait et une fête qui sauve la vie, donne souffle au souffle, redonne la vue. À celles et ceux embrigadés, broyés, aveuglés par le système aujourd'hui enrayé, après avoir essayé, presque réussi à rayer partout sur la carte du globe les valeurs de dignité, de compassion, d'empathie, d'altérité, d'humanité, responsable. Alors peu importe qu'on l'on m'accuse de croire, croire que demain peut être, car demain sera, ce que nous en ferons individuellement et collectivement, oui, peu importe que l'on m'accuse. Pour ma défense, je dirais que je suis poète, comme Rodney Saint-Éloi, Loa de Feu. Et la poésie, qui nous apaise, nous appelle à emprunter de nouveaux chemins sur la mer et l'amour. La poésie nous appelle au polémos. Ratons notre mort et apprenons à revivre à hauteur de femmes et d'hommes juste debout. Il est l'heure de nous-mêmes. Et la manufacture des rêves est ouverte.
Enjaillez-vous, enjaillons-nous. La manufacture des rêves est ouverte. Je vous propose aujourd'hui la réflexion que nous inspirent deux chansons de deux grands artistes. Il s'agit du Nigérian Feu Fela Anikulapo Kuti et le Jamaïcain Feu Bob Marley. La chanson universaliste Mr. Follow Follow de Fela s'adresse en premier lieu aux Africains. Traduisons Monsieur Suiveur Suiveur.
Mr. Follow, follow,
follow, follow, follow, follow, follow, follow.
Some they follow, follow them, close them eye,
them close eye, blink, blink, blink.
Some they follow them, close them mouth,
them close mouth, pa, pa, pa.
Some they follow them, close them ear,
them close ear, boing, boing, boing.
Some they follow them, close them sense,
them close sense, biri, biri.
Some they follow them, close them eye,
close eye, peep, peep, peep.
Some they follow them, close them mouth,
them close mouth, pa, pa, pa.
Some they follow them, close them ear,
close ear, boing, boing, boing.
Some they follow them, close them sense.
Certains suivent de près, regardent de près et ferment leur bouche. Certains suivent et bouchent leurs oreilles. Mes frères, ouvrez vos yeux, vos oreilles, vos bouches et votre bon sens. Quant à Bob Marley, dès les premiers couplets de Redemption Song, il rappelle d'emblée la masse des forces vives pillées par l'esclavage en Afrique. Il dit « Vieux pirates, ils m'ont volé, m'ont vendu au navire marchand quelques minutes après m'avoir pris des forces sans fond. » Ma main est devenue forte par la main du Tout-Puissant. Nous avançons dans cette génération triomphalement. Voulez-vous entendre cette chanson, la chanson de la liberté?
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships.
minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs.
Ces couplets s'enchaînent sur une vive exhortation. Émancipez-vous de votre mentalité d'esclave. Nul, si ce n'est nous-mêmes, ne peut libérer nos esprits. De mon point de vue, les deux artistes mettent le doigt sur les dégâts psychologiques, intellectuels ou moraux causés par l'esclavage et la colonisation. Ils posent ici la problématique de notre imaginaire à penser par lui-même et pour lui-même. Les ressources en Afrique pour inventer ou réinventer notre production intellectuelle, économique, sanitaire ou culturelle pilulent à profusion dans notre passé historique et dans notre présent. En replongeant dans la nuit des temps, on constate que bon nombre des savants de la Grèce antique se sont instruits en Égypte. Prenons quelques exemples. Pythagore, il alla en Égypte sur les recommandations de son maître Polycrate et y étudia durant 22 ans. Ce mathématicien grec fut élève auprès des prêtres à Memphis, mais aussi à Thèbes et à Héliopolis avec le prêtre Oinouphis. Platon apprendra 13 années durant la philosophie et les sciences sacerdotales auprès du prêtre Sekhnouphis à Héliopolis et des Khnouphis à Memphis. Quant à Épédocle, il étudia les principes contraires du bien et du mal dans leur lutte cosmique représentée par les dieux Osiris et Seth. À son retour, il diffusera auprès de ses disciples grecs ce qu'il apprit en Égypte, les quatre éléments primordiaux de la création. Il décrit le Noun, océan primordial, comme une force primitive du futur et de l'univers. Ces quelques exemples témoignent du potentiel et du rayonnement scientifique et civilisationnel que le continent africain a produit par le passé. C'est de cela qu'il est question dans l'œuvre du Sénégalais Cheikh Diop, l'antériorité des civilisations nègres. Et dans Black Man of the Niles and His Family de l'Américain, le docteur Joseph Alfredo Antonio Ben Jonathanan. Que remarquons-nous aujourd'hui? Malgré l'héritage des sciences en tout genre léguées par l'Égypte et bien d'autres civilisations africaines ou du continent africain, notre imaginaire, surtout celui de nos gouvernants, s'obstine à s'inféoder à la pensée occidentale et à la suivre aveuglément. Et pourtant, certaines grandes figures contemporaines n'en finissent pas de nous exhorter. Le continent africain doit penser par lui-même et pour lui-même. Afrotopia, l'œuvre de l'économiste sénégalais Felwine Sarr, diffusée en 2016, commande à l'Africain de s'émanciper psychologiquement, de donner libre cours à son imaginaire pour s'inventer ou se réinventer tout ce qui est possible. L'homme africain, dit-il, doit vaincre en lui tout sentiment d'infériorité pour s'accaparer sa véritable identité. Il renchérit en constatant qu'au lendemain des indépendances, les États africains ont commis l'erreur de calquer leurs projets de développement sur les pays occidentaux, faisant fi de la singularité de leur population, de leurs traditions et de tout ce qui fait de l'Afrique. Felwine est affirmatif. L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisie. Son statut de fille aînée de l'humanité requiert d'elle de s'extraire de la compétition, de cet âge infantile où les nations se toisent pour savoir qui a accumulé le plus de richesses, de cette course effrénée et irresponsable qui met en danger les conditions sociales et naturelles de la vie. Est-ce qu'il a raison, le Ferwin? Sur le continent africain, certains de ceux qui, avant lui, ont chéri le concept du développement pensé par soi-même et pour soi-même, sont aujourd'hui 2 mètres sous terre.
Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir en un langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde. Et dire, même si je n'arrive pas à le faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter.
On se souvient de Patrice Lumumba du Congo, assassiné en 1961 par les siens avec l'aval de l'ancien colonisateur. Son péché ? Penser autrement le devenir de son Congo et par ricochet l'Afrique tout entière. En Afrique occidentale, la révolution instaurée par le capitaine Thomas Sankara en 1983 rebaptisa la Haute-Volta qui s'appellera désormais Burkina Faso, le pays des hommes intègres. L'exigence et la rigueur de sa révolution ont parfois été critiquées, mais les discours de son idéal d'il y a plus de 30 ans sont reçus aujourd'hui comme ceux d'un visionnaire. Après 4 ans de révolution, il fut assassiné en 1987. Son péché, avoir dénoncé la cupidité du système occidental et rêver une Afrique qui se construit avec ses forces vives et ses intelligences. On comprend que certains de nos compatriotes, face à ce tableau sombre, disent que l'Afrique est maudite. Non, elle ne l'est pas. Elle ne le sera pas si nous demeurons attentifs aux prêches de penseurs du continent et de sa diaspora comme Fela ou Bob Marley. La répétition a des vertus pédagogiques. Pour conclure, permettez-moi de revenir donc sur leur injonction. Fela nous dit, mes frères, ouvrez vos yeux, vos oreilles, vos bouches et votre bon sens. Et Bob Marley nous dit, émancipez-vous de votre mentalité d'esclave. Nul, si ce n'est nous-mêmes, ne peut libérer nos esprits. Les moyens de nous émanciper en Afrique, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Soro Solo.
Il y a en Kokolani un proverbe qui dit ceci. Si tu veux connaître un endroit, parle avec les absents. Si tu veux connaître une personne, écoute ses rêves. Nous sommes à la manufacture des rêves avec le dernier roman de Miyakuto, Les Sables de l'Empereur. Romancier insomniaque, Miyakuto confie qu'il rêve éveillé. Comme dans ses livres, ses paroles brouillent volontairement les frontières entre rêve et réalité, entre fiction et vérité, entre poésie et prose. Il nous invite à déplacer notre propre regard, exploser les cadres, combattre toute assignation et interroger sans cesse nos représentations, nos manières de dire et de lire le monde. Son dernier roman est ancré dans l'histoire du Mozambique à l'époque coloniale, inspiré par la résistance puis l'épopée tragique de l'empereur de Gaza, Ngungunyane, face aux Portugais. Pourtant, quand on demande à Miyakuto quelle est la part de fait réel que côtoie la fiction, il répond « Qu'est-ce que la vérité historique quand l'histoire a été racontée à partir d'un seul regard, celui des 10 vainqueurs ?» L'histoire est bien plus complexe que les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, les vaincus d'un côté et les vainqueurs de l'autre. Et pour donner corps à cette complexité, sur fond d'histoire militaire et politique, Miyakuto nous entraîne dans les pas enchevêtrés de 2 narrateurs principaux que tout semble séparer, Imeni et Germano de Mello.
deux êtres qui vont se rencontrer, s'aimer, se séparer, se retrouver jusqu'à ce que... Lui est un Portugais, extradé en Afrique pour avoir fomenté une révolte républicaine contre la monarchie du Portugal. Il écrit des lettres à ses supérieurs comme un carnet de bord sur ses perceptions, ses représentations, ses réflexions sur ce qui se joue. Il questionne son appartenance et ce qu'il fait là au cœur de cette machine coloniale qui assoit sa domination par les armes, la langue, la religion. Il rencontre Imani. Voilà l'histoire des fleuves. Ils pourront voler leur eau jusqu'à ce qu'ils s'assèchent, mais ils ne voleront pas leur histoire. Maintenant, je comprends. J'ai appris à écrire pour mieux conter ce que j'ai vécu, et par ce récit, je raconte l'histoire de ceux qui n'ont pas d'écrit. Je fais comme mon père. Dans la poussière et la cendre, j'écris les noms de ceux qui sont morts afin qu'ils renaissent des traces que nous laissons. Imani est une jeune femme, enfant de Kokolani. Elle porte en elle l'histoire des siens, leur projection, leur division aussi entre l'alliance avec les Portugais et l'association Ngungunyana. Maîtrisant la langue portugaise, elle fait office de traductrice, elle, qui navigue entre deux langues, entre deux mondes habités de croyances, de rêves et de représentations. Tantôt considérée comme pont entre ces mondes, tantôt perçue comme traite par les uns et les autres, elle cherche sa voix. Elle écrit. Elle s'écrit. Les sables de l'empereur, c'est l'histoire de son voyage à elle également, au-delà du territoire de l'enfance, au-delà d'elle-même, vers elle-même aussi. Sur son chemin, sur celui de Germano de Mello, une foule de personnages. Il y a Bianca, l'italienne, le grand-père Tangatello, parti en Afrique du Sud, l'un des frères alliés aux Portugais, et l'autre qui est prêt à donner sa vie pour que l'Afrique ne cède pas de terre aux Occidentaux. Il y a Bibiana, la guérisseuse, la reine d'Abondi, des êtres singuliers qui nous habitent bien au-delà de la fermeture du livre. Mais d'ailleurs, qui peut prétendre qu'il n'existe pas au-delà du livre ? La mère dit « La vie se fait comme une corde. Il faut la tresser jusqu'à ce qu'on ne distingue plus les fils des doigts. » Miyakuto raconte des histoires qui ont le goût du réel et décrit un réel qui a la saveur des rêves. Il parle comme on le lit et on le lit comme s'il nous parlait. Sa recette ? Je suis un traducteur davantage qu'un écrivain, un traducteur qui se fait médium entre l'oral et l'écrit et aussi entre les langues. Être écrivain, insiste-t-il, ce n'est pas juste le challenge de passer de l'oral à l'écrit, c'est une question plus philosophique. Montrer qu'il y a d'autres points de vue, plusieurs manières de raconter. Il continue alors avec moult anecdotes sur la cohabitation de plus d'une trentaine de langues au Mozambique qui transportent avec elles leurs imaginaires, leurs perceptions du monde, des histoires qu'il nous raconte comme il aurait pu les écrire pour signifier une chose essentielle. Il n'y a pas de rencontre sans décentrement. Savourez les œuvres de Miyakuto, elles sont protéiformes, pièces de théâtre, essais, contes, livres jeunesse, romans. Saviez-vous qu'il est aussi biologiste et éditeur ? Mais n'y voyez pas une addition ou une superposition, là où il y a circulation, liant et sens. Car au commencement de tout, il y a la poésie. La poésie, nous dit-il, ce n'est pas simplement un genre littéraire, c'est une manière d'écouter, d'entendre et de regarder le monde. Alors pour paraphraser un extrait de ce dernier roman de l'auteur, plongez-vous dans les sables de l'empereur où vous naviguerez comme on voyage toujours, à travers des souvenirs et des rêves.
La manufacture des rêves est ouverte.
Alice Ligier est femme, poète. Elle est slameuse, danseuse, comédienne, écrivaine, artiste. Elle est poème profondément. Et c'est la porte de son intimité qu'elle en trouve aujourd'hui avec beaucoup de sincérité pour parler de la poésie qu'elle porte à fleur de mots. De sa grand-mère, elle aussi écrivaine, et de son émotion à voir la parole qui se libère enfin pour toutes.
Moi, j'ai du mal à m'auto-déterminer comme artiste ou comme poète. J'ai l'impression que j'écris de la poésie le plus souvent, c'est ce que je fais. J'écris de la poésie. Même si ces dernières années, je suis allée voir un peu ailleurs. C'est vrai que c'est des termes que j'ai du mal à m'auto-attribuer. Après, voilà, dans mon entourage, on me dit, mais si, t'es poétesse. Oui, sûrement. En fait, je suis quelqu'un qui va beaucoup penser, mais l'acte d'écrire en poésie est assez bref, en fait, mais parce qu'il est réfléchi avant. Voilà, je ne veux pas dire j'écris des poèmes en 5 minutes. Non, non, j'ai écrit des poèmes en 3 mois, en fait. Quand je pose sur le papier et je commence à écrire, et j'ai l'impression que le stylo s'arrête quand le nœud est défait. Et j'espère que ça n'est pas qu'un nœud personnel, que c'est un nœud, que c'est pas que intime, que c'est aussi un nœud universel, quoi, qu'il faut démêler par-delà. Voilà, je l'espère, même si je trouve que ma poésie est assez intime, l'acte poétique est assez intime pour moi.
Un grain de poussière a glissé sur mon lit. Les yeux dans la lumière l'ont laissé se poser. Ce souvenir d'hier venu me raconter que demain est promesse. Qu'il ne faut regretter aucun amour qui meurt. C'est sans lui qu'on renaît par-delà les tempêtes. Ça sent la liberté. Et j'ouvre la fenêtre sur cette éternité. Je cours dans ma tête et rien ne peut m'arrêter. Je ris à plein poumon. La poussière s'envole, rejoindre son étoile. Et mes cols enfilés me servent alors de voile pour traverser la mer où l'amour s'est caché. J'ai dans la gorge un chant d'espoir. L'univers tout entier pose alors son regard sur ma nature profonde, ma nature féconde. Je crée des flèches et des fleurs. J'écris le rêche et le cœur. Je cours dans ma tête à travers la campagne. Je me prends par la main, je serai ma compagne, jusqu'à ce que Gaïa nous laisse enfin sortir pour serrer dans nos bras les amours à venir.
Moi, il y a Jacques Prévert qui m'a bouleversée. Il y a une polémique, est-ce qu'il est poète? Pour moi, c'est il m'a bouleversée, je pense, tu sais, avec le cancre, quand j'étais en... On apprend ça en CE1, je pense. Et puis il y a ma grand-mère, qui a écrit, elle, un roman et qui écrivait. Voilà. Que j'ai perdu, j'avais 10 ans quand je l'ai perdu. Et du coup, il y a quelque chose de... Je l'ai côtoyé, mais il y a quelque chose de l'ordre du fantasme autour de cette femme aussi qui me porte énormément, voilà, dans ce que je perçois d'elle, parce que je l'ai découverte aussi avec ses livres. Après, c'est une femme avant-gardiste incroyable, dans Moitié Ombre, Moitié Lumière. Elle est née en 1915. Elle aborde la question de l'avortement, du travail des femmes. Son héroïne, voilà, est une femme indépendante, célibataire, et c'est d'une puissance et tellement actuelle, en fait. Le premier recueil que j'ai écrit parle beaucoup des... C'était un recueil de nouvelles, à l'époque j'avais 24 ans quand il a été publié. Je parle énormément des violences, entre autres sexuelles, qui sont faites aux femmes, de ce qu'on demande à la femme sexuellement, voilà, des choses comme ça. Et il y a eu des moments dans ma vie où j'ai laissé tomber, où j'avais plus l'énergie, et il y a d'autres femmes qui ont repris la parole et qui m'ont donné envie d'y retourner. Je comprends, à 41 ans, que de prendre la parole, de dire, c'est pas que pour soi, parce que je pense qu'à 24 ans, j'avais des choses à libérer, que c'était maladroit, et je pense, voilà, que prendre la parole, quand je vois Adèle Haenel, quand je vois des femmes, voilà, qui se lèvent, qui posent des actes et qui disent non, bah, moi, elles me font un bien fou, elles me libèrent, en fait. J'ai vraiment quatre sœurs, voilà. Et j'en ai bien plus, en fait. J'ai compris que j'en avais plein. Moi, je pense qu'on est tous liés. Et que on doit toujours, que vraiment l'autre est un autre soi et qu'il y a toujours quelque chose qui fait écho. Il y aura toujours une vibration commune, je pense. Et dans le féminin, je dirais que depuis quelques années, je trouve que c'est encore plus vrai. Et du coup, c'est
veux dire, on est tous sœurs. C'est toutes sœurs, c'est un peu consensuel, mais j'y crois quand même, en fait. Voilà, qu'on est, on a tous, on vient tous du même endroit. Je me nourris de femmes plutôt romancières que poètes, hein. Mais y a une dimension poétique dans leurs écrits. Bon, je pense à La Complainte des Plaines de Nancy Houston, Les Vaches de Staline de Sophie Oksanen, et Marie Relindes. Alors, ça, Marie Relindes, son premier roman s'appelle Wisconsin et il m'a complètement transportée. C'est l'histoire d'une famille qui habite au-dessus d'une réserve indienne, d'une vieille réserve indienne. Il y a un côté complètement magique et très terrien et très, très réel, en fait. Et c'est quand le magique et le réel se rencontrent, bah, pour moi, c'est la vérité, quoi. Voilà. Et ouais, alors Marie Relindes, ouais. Ça me fait plaisir de parler d'elle. Moi, je me féminise de plus en plus. Parce que longtemps, je disais un auteur, maintenant je vais dire une autrice. En fait, je comprends que c'est important. Et femme poète, bah oui, c'est comme poétesse. En fait, ça ramène, voilà, peut-être que poétesse englobe les deux. Et c'est vrai que je me sens de plus en plus femme, en fait, aussi. Et poète.
Quand une femme porte la voix, elle la porte aussi pour d'autres femmes. Merci Alice. Femme poète, nous revenons bientôt.
La manufacture des rêves est ouverte.
The Dream Factory is open.
Âgée à peine de 45 ans, veuve et mère de 3 enfants, 2 filles de 18 et 10 ans et d'un garçon de 15 ans, Pascaline est originaire de Kagabandoro. Elle gagnait sa vie en travaillant dans les champs et en revendant sa récolte au marché. Et un soir, vers 20h, son village a été attaqué. Elle a dû tout laisser derrière elle pour protéger ses 3 enfants. Ils ont marché, hein. Ils ont marché pendant à peu près 2 semaines, malgré les plaies aux pieds et les chevilles enflées. Aujourd'hui, Pascaline et sa famille vivent à Bangui et n'ont pas l'intention de rentrer un jour chez eux. Plus rien ne les attend là-bas. Malgré sa douleur, Pascaline reste très brave. La force dans son regard est celle d'une mère prête à tout pour les siens. Comme elle le dit elle-même, ici au moins, on n'entend pas le crépitement des balles le soir.
Je suis venue de Bandoro, Kagabandoro. Je suis arrivée à Bangui ici, je penserais que moi, avec mes enfants, on va tous mourir. Environ de 20 heures comme ça, les gens là sont arrivés. Les arbres. Maman, 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 je commence à trembler, pleurer. 2 semaines de Bandoro pour arriver à Bangui. J'ai souffert comme ça, avec les enfants, sans manger. Bandoro est saccagé. Maintenant là, je pars là-bas pour faire quoi encore?
La manufacture des rêves est ouverte.
Quelle sera la nouvelle cartographie du monde après la sortie de cet événement-là? Comment les gens vont reconstruire la carte? Où on va plus s'enfermer? Où on va revoir les questions de frontières entre nous? Non pas les frontières physiques, mais les frontières entre humains. Comment on va les revoir?
On est appelé à connaître, même par l'imaginaire, tous les lieux du monde. Car tous les lieux du monde, aujourd'hui, dans les temps modernes, tous les lieux du monde se rencontrent, s'affrontent. Il y a des guerres, il y a des génocides, il y a des massacres, il y a des épidémies, il y a des famines, il y a des inondations. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau, qui est que nous avons tous le sentiment que nous vivons la même dimension que j'appelle mondialité.
Les poètes déclarent qu'aller, venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique.
Depuis la nuit des temps, des femmes et des hommes marchent, lucioles lucides sur la condition humaine au fond. Pas à pas, elle et il s'en viennent, elle et il deviennent fille et fils des dunes, fille et fils de lune, rouge et pleine. Elle et il disent:
nos destins, nos devenirs sont inséparables, que nous le voulions ou non.
Le tout monde aujourd'hui, c'est une espèce de mise en interaction accélérée des peuples, des cultures, des hommes, des traditions, etc., etc.
Les poètes déclarent: qu'en la matière des migrations individuelles ou collectives, transpays, transnations et transmonde, aucune pénalisation ne saurait être infligée à quiconque et pour quoi que ce soit, et qu'aucun délit de solidarité ne saurait décemment exister.
Le monde est inextricable. Il faut une intuition extraordinaire pour essayer de comprendre ce qui se passe, par-delà toutes ces calamités dont j'ai parlé. Ce qui se passe, qui est peut-être, je dis peut-être, susceptible de nous réunir un jour.
Certains y croient encore et s'y attellent. Accueillir chaque jour le jour et l'espérance du jour. Amarrés à la beauté, ils s'aiment, idéaux nobles et sentiments d'amour à marée haute et mettent tout leur cœur à l'ouvrage de vivre en harmonie et faire de la vie une prose commune, une cause au-dessus de toutes les causes. Certains y croient encore.
Les poètes déclarent que par le règne de la puissance actuelle, sous le fer de cette gloire, ont surgi les défis qui menacent notre existence sur cette planète. Que dès lors, tout ce qu'il existe de sensible, de vivant ou d'humain en dessous de notre ciel a le droit, le devoir de s'en écarter et de concourir d'une manière très humaine, ou d'une autre encore bien plus humaine, à sa disparition.
Avec l'énergie du soleil, on traversera indignement nos marécages et nos sables mouvants, et nos luttes ne seront plus poursuites du vent.
Combattre la mondialisation, on ne peut pas le faire si on s'enferme sur soi-même. Si je ne suis pas dans la mondialité, je ne peux pas combattre la mondialisation.
On lèvera nos regards tournés au sol, et tel de tournesol, on regardera du côté où se lève le soleil.
Quelle sera la nouvelle cartographie du monde après la sortie de cet événement-là?
Du côté où se lève le soleil.
Les poètes mènent ce combat-là, le combat de cette diversité, et le combat de cette mondialité.
Alléluia, shalom, salam, salam alaikum, mbote, diversité et sa discrimination.
Nous sommes des ingouvernables, porteurs de poèmes et de rêves fragiles. Nous sommes des ingouvernables, n'appartenant à aucune race, aucune classe, aucune caste, si ce n'est celle des femmes et des hommes de plein vent. Nous sommes des ingouvernables.
C'est une politique active qui permet l'échange et qui permet le change.
Debout, main dans la main, marchant, demain c'est aujourd'hui. Main dans la main, partant, demain nous attend.
Je suis un poète sans papier.
I am human and I believe in the power of my dream. I am human and I believe in the power of my dream.
Yeah, I'm just a human. I believe in the power of a poetry. I'm just a human.
La manufacture des rêves est ouverte.
Tenir debout. Reconstruire le monde en Tetris. Trouver la sortie, accepter l'erreur, chercher la beauté. Prendre patience, contempler le sablier, réapprendre à vivre dans le noir, dans le flou, les poumons chauffés à blanc sur l'air sec, les poings serrés, respirer à la paille. Taper des mains, faire plus de bruit que le claquement des bronchioles en écho dans les couloirs blancs des poitrines en feu. Provoquer une onde sismique dont les plaques se souviendront, de la douceur et de la chaleur qui au choc offre la caresse du genre humain. Comme une symphonie dissonante, quand chacun compte ses morts, comme un SOS envoyé à l'univers, l'humanité tremble, l'humanité a peur. Trouver refuge dans le poème. Accepter de dire au revoir. Cueillir l'illusion de demain, renouer avec la poésie puisque plus rien n'est désuet. Se relever de la chute en milliers de pierres, en sommes de papier connectés pour se dresser à nouveau en un tronc d'homme debout. Accepter le rêve. Entendre la résonance du cuivre, du poète au souffle de terre cuite. Le poète est jazz sur le tempo de la vie. Et il souffle encore et toujours plus fort sur nos cœurs. Comme la note suspendue, les lumières des soirs au village ne s'éteindront plus. Papa groove toujours sur le monde. Les printemps porteront à jamais le souffle cuivré du jazz. Et ça aussi, c'est de la poésie.
Eh bien, mon repata. Une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Les oiseaux regagnent leur nid, harmonise le coucher du soleil. Oh, oh.
Et la nuit s'étend sur le village.
Les hommes rentrent leur troupeau ce soir. Encore une dure journée de passé ici-bas. Oh, oh. Le moment que nous aimons, c'est quand la grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé avec du bon foufou, sauce gombo, na. Aïe, aïe, aïe.
Et la nuit s'éteint.
Clair de lune, écoutez-le. C'est à mon bois. Le tantan. En boutant. En boutant nos corps et âmes.
Et la nuit s'étend sur le village monde. Viendra le jour où nous pourrons nous asseoir sur le même banc au clair de lune, au son des tam-tams envoûtant nos corps et nos âmes sur les notes flottantes du jour d'après. Heureux. En attendant, il est l'heure de nous-mêmes sur la lune. Dans nos salons, nos corps dansent sous le makossa. Ce soir, c'est une ambiance afro-jazz qui nous entraînera. Il est l'heure de vous-même. Vous pouvez reprendre une activité presque normale. La manufacture des rêves restera ouverte.